Il est 6h.
Je crois que toute la France est mobilisée. Il faut vacciner, 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 mais il faut impérativement maintenir tous les gestes barrières.
C'est le seul moyen pour envisager un début de sortie de crise, martèle Jean Castex. Et justement, la vaccination va connaître un gros coup d'accélérateur avec la mise à disposition du Stade de France, où l'on prévoit 10 millions d'injections par semaine. Accélération aussi aux États-Unis. D'ici le 19 avril, tous les adultes pourront recevoir une dose. Dans ce journal, des débats houleux en prévision à partir de demain à l'Assemblée nationale avec l'examen du projet de loi ETA. Et puis une pièce de théâtre en ligne depuis votre salon pour compenser la fermeture des salles. Mais pour les comédiens, le trac est toujours là.
Les sports à suivre. Le PSG attendu au tournant ce soir contre le Bayern de Munich. Quart de finale de la Ligue des Champions. Et puis mon invité inattendu qui a tracé sa route des quartiers populaires de Rouen jusque dans les studios de cinéma. Il joue dans le prochain James Bond et dans le prochain OSS 117. Il va nous dire comment il en est arrivé là. Il nous raconte son parcours dans un quart d'heure. Bon réveil à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La campagne de vaccination s'accélère en France avec l'ouverture du vaccinodrome du Stade de France. Hier, plus grand centre de vaccination dans l'Hexagone. Objectif, 10 millions d'injections par semaine, a dit Jean Castex. Et le Premier ministre s'est montré confiant.
Je crois qu'on peut dire de façon à peu près sûre que la première cible que nous nous étions collectivement fixée, c'est-à-dire 10 millions de nos concitoyens vaccinés au 15 avril, qui était donc une première marche très symbolique, sera, grâce à cette mobilisation, sera atteinte et sans doute, je l'espère en tout cas de tout cœur, dès la fin de la présente semaine pour que cette accélération puisse encore s'amplifier dans les jours et dans les semaines à venir. Voilà, je crois que toute la France est mobilisée. Il faut vacciner, 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 mais à côté, il faut impérativement maintenir tous les gestes barrières. C'est cette alliance entre ces mesures de précaution et la vaccination qui fera encore une fois que nous aurons des perspectives certaines de sortie de crise.
Voilà Jean Castex au Stade de France hier, des propos recueillis par Hélène Terzian.
Hier, c'était aussi le retour de l'école à la maison. On en parlait à l'instant avec Martin Lange et avec quelques ratés. Entre serveurs défaillants et cyberattaques, de nombreux élèves n'ont pas réussi à accéder à leur plateforme de cours en ligne.
Le CNED, le Centre National d'Enseignement à Distance, va porter plainte suite à ces actes délibérés de malveillance. De son côté, le ministère de l'Éducation nationale assure que les cellules de crise travaillent activement pour que tout soit rétabli ce matin. Mais il y a un autre problème auquel peuvent être confrontés les parents d'élèves avec ce retour de l'école à la maison. C'est celui de la garde d'enfants. Certaines professions dites prioritaires ont le droit de laisser leurs enfants dans les établissements scolaires, mais ce n'est pas le cas du personnel de justice.
Et l'année dernière, pendant le confinement, environ 3000 personnes étaient déclarées indisponibles chaque jour du fait de la garde d'enfants. Une situation intenable selon Isabelle Beignet-Houben, secrétaire générale des greffiers de France Force Ouvrière. Elle répondait à Marion Dubreuil.
On aurait voulu une vraie réduction d'activité parce que là, on ne va pas avoir de réduction d'activité. On va faire des adaptations en fonction du virus, des absences des uns et des autres. On maintient tout, c'est-à-dire qu'on maintient les audiences, on maintient les convocations, on n'a rien déprogrammé. Donc, on va faire autant de choses qu'avant avec moins de personnes. Concrètement, moi, j'ai 3 filles, elles sont au collège. Je ne me vois pas relire mes jugements, faire mes notifications. On est en train de surveiller des devoirs de 3e, de 4e. C'est juste de la folie. On sait très bien que ce n'est pas possible. Ou alors si, il faut le faire entre 6h le matin et 9h et après, entre 8h, quand elle va être couchée, entre 8h et je ne sais pas quelle heure. On n'est pas instituteur, on n'est pas professeur. Enfin, on répond à des questions de mathématiques tout en relisant son jugement. Ce n'est pas possible.
Autre ambiance de l'autre côté de l'Atlantique. Joe Biden annonce une nouvelle étape dans la campagne de vaccination aux États-Unis. Tous les adultes américains pourront recevoir une dose à partir du 19 avril, soit une dizaine de jours avant l'objectif fixé. Écoutez Joe Biden.
By no later than April 19th, in every part of this country,
le 19 avril au plus tard, dans toutes les régions de ce pays, chaque adulte pourra se faire vacciner. Plus de règles confuses, plus de restrictions confuses. Mais laissez-moi être tout à fait honnête avec vous, nous ne sommes pas sur la ligne d'arrivée. Ce combat est loin d'être terminé ce n'est pas le moment de baisser les bras.
À noter que la Californie prévoit un début de retour à la normale avant l'été avec une réouverture totale de l'État à la mi-juin, à condition qu'il n'y ait pas de nouveau pic de la pandémie ni de pénurie de vaccins.
Il est 6h05 sur Europe 1. C'est un débat sous haute tension qui s'annonce demain dans l'hémicycle. Les députés se penchent sur la proposition de loi sur l'euthanasie.
Mais le sujet divise tous les groupes parlementaires et suscite même l'embarras du gouvernement. Et pour éviter un vote dans la journée, pas moins de 3000 amendements ont été déposés. Virginie Salmen.
Un débat sur l'euthanasie en pleine pandémie, Olivier Falorni n'y voit pas un mauvais timing. Pour les députés Libertés et Territoires qui portent ce texte, les Français sont prêts.
C'est une grande loi de liberté, celle de l'ultime liberté qui est encore refusée aux Français. Cette loi permet une assistance médicalisée active à mourir dans des conditions strictes.
Dans une démocratie, on ne donne pas la mort, répondent les opposants à ce texte. Jean Leonetti en tête, l'auteur des deux dernières lois sur la fin de vie. Parmi les points de blocage, les délais très courts pour demander à mourir, souligne le docteur Claire Fourcade, présidente de la Société française de soins palliatifs.
Cette proposition de loi, elle vient nous dire que pour un patient qui fait une demande d'euthanasie, on a 4 jours pour organiser, rencontrer des médecins, faire des propositions, revenir vers le patient, lui faire confirmer sa demande, et ensuite qu'on a 24 heures pour mettre en œuvre cette euthanasie. Et je trouve que ces délais très contraints, qui sont complètement différents dans tous les autres pays qui ont déjà légalisé, hein, où les délais sont beaucoup, beaucoup plus longs, jusqu'à 90 jours au Canada, hein, donc c'est vraiment rien à voir, elle ignore complètement ce qu'est la réalité de l'accompagnement.
Autre point de crispation à prévoir dans l'hémicycle, l'article 3 qui prévoit qu'un patient qui ne peut plus s'exprimer pourrait être euthanasié s'il l'a clairement demandé par écrit ou à un proche de confiance.
Et le député qui porte ce texte, Olivier Falorni, est justement mon invité en direct à 6h40 sur Europe 1.
Une nouvelle vidéo choc diffusée hier soir par L214 dans un élevage industriel de poulets du Pas-de-Calais, cette fois où l'on peut apercevoir des volailles entassées en mauvais état, mortes parfois. L'association de défense des animaux souhaite faire barrage à un projet d'extension de cet élevage.
Une question qui divise à présent, faut-il célébrer Napoléon ?
Le 5 mai marquera le bicentenaire de sa mort, mais déjà le sujet crée la polémique en Corse où est né l'ancien empereur. Les commémorations ont débuté hier soir avec plusieurs visioconférences, mais pour certains élus, ce n'est pas à la hauteur du personnage. Frédéric Michel.
En Corse, son île comme sur le continent, Napoléon divise. L'homme ne sera pas officiellement célébré, mais le bicentenaire de sa mort commémoré par l'Assemblée territoriale de Corse, un choix politique assumé par son président, le nationaliste Jean-Guy Talamoni.
La commémoration est indispensable. La célébration, on peut comprendre qu'elle soit contestée. Bien sûr qu'en tant que politique, nous sommes chargés d'une politique de mémoire, mais cette politique, nous la faisons de manière respectueuse de toutes les interprétations historiques. Nous ne voulons pas imposer un roman national. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas du tout dans un ordre d'idées axiologiques, le bien, le mal. Non, nous travaillons sur un personnage, sur une époque. Et encore aujourd'hui, nous sommes aussi le produit de ce qu'il a fait.
Des commémorations à minima, regrette Jean-Charles Orsucci, le maire de Bonifacio, qui préside un groupe d'opposition à l'Assemblée de Corse.
Ça manque d'ambition, il fallait aller un peu plus loin. La marque Napoléon, nous devrions en tirer davantage de bénéfices, y compris d'un point de vue touristique et économique. On n'a pas été assez performants, quels que soient les partis politiques, pour nous réapproprier ce personnage illustre.
Et crise sanitaire oblige, même à Ajaccio, la ville natale de l'empereur, il ne devrait pas y avoir de grands rassemblements à l'occasion de ce bicentenaire de la mort de Napoléon.
Frédéric Michel en Corse pour Europe 1. Et puis en attendant la réouverture des salles de spectacle, eh ben on peut se divertir en ligne, on peut assister à un festival de théâtre en ligne.
Oui, le festival Parole Citoyenne qui s'adapte à la crise pour sa 4e édition. Ça se passe sur Facebook Live à l'initiative du producteur Jean-Marc Dumontet. 8 spectacles à voir pendant tout le mois d'avril et il y a du beau monde à l'affiche. Julie Gayet, Lambert Wilson ou encore Christina Reali qui jouera une adaptation de la vie de Simone Veil. À l'approche de cette performance un peu particulière, elle a confié ses impressions à Diane Chenouda.
Même si c'est cet ovni, le live streaming pour moi, c'est quand même très agréable d'être en création. On sera en live et on aura évidemment tout le track qui va avec, comme au théâtre. Ce festival, pour moi, je l'ai ressenti comme un début de fin de pandémie, même si la pandémie est toujours là. Mais ça nous a fait une petite ouverture, un petit espoir. Et c'est vrai que pendant que je répète là, ça me remet dans ma vie, dans ce que je fais d'habitude. J'ai l'impression que ma vie a repris. un peu. C'est un très joli festival. J'ai trouvé ça très, très intelligent de vouloir le faire quand même là, cette année, de cette façon. Puis ce sont des textes contemporains qui parlent de plein de sujets de société. Et Simone Veil, ça rentre complètement dans ce cadre. Je le prends comme un challenge, surtout avec un sujet pareil.
Voilà, Christina Reali qui incarnera donc Simone Veil dans 3 semaines, le 28 avril. Pour s'inscrire, rendez-vous sur Facebook Live. Et c'est pas moins de 9 euros pour assister au spectacle.
C'est noté, merci. C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, 6h10. Léna Ekmanier, votre journal des sports. Et c'est un sacré défi qui attend le PSG en Ligue des Champions ce soir.
Oui, ce quart de finale aller est un choc sur un air de revanche pour Paris après la finale perdue en août dernier. C'est le match de l'année pour le PSG qui vit une saison inconstante. 8 revers en Ligue 1, 2e place en championnat. Alors que dans le sien, le Bayern est déjà quasi champion. Laurent Fournier, qui a joué et entraîné Paris, estime qu'il faudra hausser ce soir le niveau de jeu.
Je suis confiant, mais on n'est pas dans la continuité de ce qu'on attend du Paris Saint-Germain. Quand vous faites un match comme Barcelone à Barcelone, pour moi ça a été la référence. Et la suite est catastrophique, vous perdez contre Nantes, vous faites un match exceptionnel à Lyon, mais quand Neymar rentre, vous prenez 2 buts. Vous faites un match catastrophique le retour de Barcelone. Si vous en faites un bon sur 20, vous n'allez pas être champion. Et vous allez sûrement pas passer en Ligue des Champions.
Alors c'est vrai qu'avec la cascade de forfaits, on peut se dire que le match s'annonce compliqué, notamment en milieu de terrain. Mais le Paris Saint-Germain va pouvoir s'appuyer sur ses 2 stars, Mbappé et Neymar. Le défenseur du Bayern, Benjamin Pavard, va bien surveiller son camarade d'équipe de France ce soir.
C'est un joueur de classe mondiale. Il le prouve en équipe de France et aussi à Paris. C'est mon ami dans la vie de tous les jours. Mais demain, ça sera un adversaire. Et c'est sûr que c'est un joueur très important pour Paris, mais il y a aussi d'autres joueurs aussi qui peuvent faire la différence. Donc il ne faut pas se préoccuper juste d'un joueur.
Benjamin Pavard avec Julien Froment, que vous retrouverez ce soir aux commentaires de ce Bayern-PSG quart de finale aller de la Ligue des Champions. Grande soirée sur Europe 1 à partir de 20h.
Et hier soir, dans ces quarts de finale, le Real Madrid et Manchester City ont mis toutes leurs chances de leur côté.
Oui, le Real en faisant chuter Liverpool 3-1 à Santiago Bernabeu, et City à domicile aussi, là en s'imposant face à Dortmund 2-1. Par ailleurs, pour être complet sur le football, Monaco va en quart de finale, mais de la Coupe de France, après sa victoire au tir au but, c'était hier soir face à Metz.
Dans le reste de l'actualité sportive, la Fédération française de judo a dévoilé la liste de ses athlètes féminines pour les Jeux de Tokyo.
Oui, avec Larisse Agbegenyuk, 4 fois championne du monde chez les moins de 63 kilos, qui sera la chef de file des Bleus. Mais pour les moins de 70, là, le doute persiste. Qui ira entre la championne du monde et numéro 1 mondial, Marie-Ève Gallier, et Margot Pinault, qui elle est double championne d'Europe, médaillée de bronze et 2e mondiale. Larbi Ben Boudaoud, qui est le directeur de la haute performance, n'a pas encore tranché.
Quand on parle à chaque fois, on parle de problèmes de riches, là on est en plein dedans. Donc au lendemain de ce championnat d'Europe, on fera un bilan de l'ensemble des échéances dans lesquelles elles ont participé. Et quoi qu'il arrive, dès aujourd'hui, je peux vous dire que ce sera un choix très 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 compliqué à faire.
Voilà le choix cornélien de Larbi Ben Boudaoud, interrogé par Axel May. Pour les garçons, on aura la liste un petit peu plus tard. Il y a néanmoins une certitude, Teddy Riner en sera.
Il est toujours là, Teddy Riner au rendez-vous. Léna Ekmanier pour les sports, merci. Europe 1. C'est mercredi et dans une vie normale, ce serait jour des sorties cinéma, des films sans cesse repoussé, un dernier en date, OSS 117 et James Bond qui devait sortir au mois d'avril. Mourir peut attendre. Bien les spectateurs encore plus. Hein. Ce sera pour le mois d'octobre, le James Bond. Et je salue mon invité inattendu qui patiente lui aussi. Bonjour.
Bonjour, je suis Abdou Sagna, je suis quelques heures sur le prochain James Bond.
Bonjour à vous Abdou Sagna, bienvenue sur Europe 1. Alors vous allez nous raconter cascadeur, non seulement sur le prochain James Bond, mais aussi sur le prochain OSS 117. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Sur un air de James Bond, mon invité inattendu a tourné justement dans le prochain 007. Et dans le prochain OSS 117 également, deux films dont les sorties sont une nouvelle fois repoussées. Abdou Sagna, vous êtes donc cascadeur. Vous avez tourné dans ces deux films qui sont peut-être les plus attendus du public, non ?
Tout à fait, apparemment.
J'imagine que pour un cascadeur, aller tourner dans un James Bond, c'est un peu le Graal, non ?
Complètement, parce que James Bond, c'est un film qui est très connu depuis pas mal d'années, hein, il y a différents acteurs. Donc se dire un jour une grosse production comme James Bond, d'y pouvoir y participer, c'est un rêve.
Alors, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous y faites ?
Je suis un policier cubain. où James Bond une scène d'action qui va se passer à Cuba. Je ne vais pas vous en dire plus parce que je compte bien que vous allez voir le film au cinéma. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je suis un flic. Cuba, qui se passe à Cuba, avec l'interaction de James Bond, ça va tirer de partout, ça va exploser, il y aura des belles scènes d'action. Et je vous invite à aller voir ce beau projet.
Vous êtes un méchant ?
Non, je n'en dirai pas plus, que je sois un bon, un mauvais film, je ne dirai rien du tout.
Comment on en arrive comme ça à tourner dans un James Bond, à tourner avec les plus gros blockbusters d'Hollywood ?
J'ai eu de la chance. J'ai rencontré Olivier Schneider, qui fait partie de son groupe, les Human Stunt, qui m'ont donné l'opportunité de bosser sur quelques projets auparavant. Et ils m'ont proposé de travailler sur ce projet du James Bond, que j'ai accepté avec des yeux qui voyaient.
Et dans OSS 117 ?
Alors, dans OSS 117, j'étais avec un autre régleur qui s'appelle Philippe Guégan, qui est aussi connu, qui a fait pas mal de films d'action en France et en étranger. Et j'ai eu l'occasion, justement, de faire une scène avec Jean Dujardin. J'en en dirai pas plus, il va falloir aller voir le film aussi.
Alors, vous n'êtes pas arrivé, je lisais que vous n'êtes pas totalement arrivé de nulle part, parce que vous avez été, je crois, à bonne école avec un père champion de lutte sénégalaise. Vous-même, vous avez fait beaucoup d'arts martiaux, très jeune, j'imagine.
Tout à fait. Donc, j'ai touché un petit peu à tous les systèmes, au kung-fu, au taekwondo, à la boxe thaï. J'ai touché un petit peu à la lutte, donc ce qui m'a permis aussi de me développer, avoir un panel de techniques dans le cinéma d'action. Donc je me suis dit, il faut que je sois le plus complet possible. J'ai fait aussi de la capoeira. J'enseigne maintenant aujourd'hui. J'ai monté mon association sportive en 2007, à Rouen exactement. Et on propose pas mal d'activités sportives au niveau des arts martiaux et sports de combat, mais aussi de la cascade, parce qu'on fait aussi du parcours, l'art du déplacement, peu comme le Yamakasi. Au sein de l'association, nous intervenons aussi dans le cadre du périscolaire. On fait aussi dans le cadre avec les jeunes pour la lutte contre le décrochage scolaire, la lutte contre les violences faites aux femmes.
Vous êtes vous-même un éducateur extrêmement engagé dans ces quartiers populaires. Ça fait toujours rêver ce métier de cascadeur. Est-ce que les Bruce Lee, les Jackie Chan qui vous ont fait rêver, font toujours rêver les jeunes aujourd'hui ?
Toujours. Ils ont tous influencé. Aujourd'hui, j'interviens beaucoup sur les quartiers, sur les Hauts-de-Rouen et sur le quartier Grammont, qui sont des quartiers de politique de la ville, des quartiers assez sensibles. Et à travers mon parcours, j'essaie de les aider, de les valoriser et de trouver des solutions. Ils ont mes coordonnées téléphoniques s'ils ont besoin de conseils, de l'accompagnement. Donc, je travaille avec les partenaires locaux et on met en place différents dispositifs en faveur de la population de différentes communes et de la métropole.
Voilà, votre association s'appelle Wangdi, du côté de Rouen. Bravo et merci à vous, Abdou Sania, d'avoir été l'invité inattendu d'Europe 1 ce matin. Donc, éducateur et cascadeur, on va vous suivre au mois de novembre. Faudra être attentif. Vous repérez à l'écran dans le prochain James Bond. On a l'indice, un flic cubain. Et puis au mois d'août dans OSS 117. Merci à vous.
Merci à vous. Je crois qu'il vous remercie.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h20 sur Europe 1. Plus de 30 000 malades du Covid sont hospitalisés en ce moment. Plus de 5 600 en réanimation. Des chiffres bien au-dessus du pic de la deuxième vague de novembre. Et en parallèle, la vaccination s'accélère. La France attend plus de 12 millions de doses d'ici la fin du mois. L'université d'Oxford suspend les essais de son vaccin AstraZeneca sur les enfants. Et cela jusqu'à nouvel ordre dans l'attente de l'avis du régulateur britannique. La prison à perpétuité requise contre Rida Cricket, jugé pour un projet d'attentat déjoué peu avant l'Euro de football de 2016 en France. Le verdict attendu en fin de semaine. Et puis plus de 150 habitants d'Auriol, près d'Aubagne, ont dû abandonner leur domicile hier soir sous la menace d'un gros incendie attisé par le Mistral. Nina Simone dans la partition d'Omblin Roche ce matin avec un concert historique. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 6h23 et c'est l'heure d'ouvrir la partition d'Omblin Roche. Chaque matin, l'histoire derrière une chanson, un artiste ou un moment historique. En l'occurrence, c'est le cas ce matin, il y a 53 ans, trois jours après l'assassinat de Martin Luther King à Memphis. Le président américain Lyndon Johnson décrète le dimanche 7 avril, journée de deuil national. Dans tout le pays, de nombreux artistes noirs vont vouloir maintenir leurs concerts. À l'image, Omblin, de Nina Simone.
Ladies and gentlemen, Westbury Music Fair takes great pride in presenting the High Priestess of Soul, Miss Nina Simone.
In the morning, when the moon is at its rest, you will find me.
Depuis plusieurs années, Nina Simone a pris part à la lutte pour défendre les droits des Afro-Américains.
Oui, en 1964, elle pousse un cri de colère après l'assassinat du leader des droits civiques Medgar Evers et après le meurtre de quatre jeunes Afro-Américains dans l'explosion d'une église à Birmingham, en Alabama.
Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. Everybody knows about me.
Mississippi Goddam est une déclaration de guerre à destination de l'Amérique raciste.
Car contrairement à Martin Luther King, cette lutte, Nina Simone ne l'imagine pas pacifique.
Non, elle soutient la révolution par la violence. Emportée, révoltée, Nina Simone chante et prend la parole lors de nombreuses grandes réunions publiques sur les droits civiques.
Et ce soir-là, le 7 avril 1968, Nina Simone en deuil se produit donc comme prévu, au festival Westbury sur l'île de Long Island à New York.
L'heure est au recueillement. Ce n'est plus de la colère, mais de la tristesse. Nina Simone choisit d'interpréter une chanson que son bassiste Gene Taylor vient d'écrire. Why, pour Pourquoi est-il mort ? C'est le frère de la chanteuse Samuel Waymon qui l'accompagne au piano.
We want to do a tune written
Nous voulons
today.
Interpréter ce titre écrit pour aujourd'hui,
for this hour.
Pour cette heure-ci.
Dr. Martin Luther King.
Pour Dr. Martin Luther King, Nina Simone improvise, elle prend son temps, elle appelle le public pour qu'il se joigne à sa peine. La chanson Why the King of Love is Dead dure près de 13 minutes.
With his Bible at his side, from his foes he did not hide. It's hard to think this great man is dead. Oh yeah.
Après cette chanson, cette prière de 13 minutes, Nina Simone poursuit son concert avec une reprise inattendue.
Oui, deux titres de la comédie musicale Air qu'elle fusionne pour n'en faire qu'un. I'm Black, Ain't Got No, d'une part. I Got Life, d'autre part. Elle en fait surtout un hymne pour la fierté des Noirs américains et de surcroît des femmes noires américaines.
I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money.
Sur scène, Nina Simone, trois jours après l'assassinat de Martin Luther King, c'était le 7 avril 1968.
Oui, elle assurait ce concert à New York, et un concert qui a été enregistré. L'album 9 Said comprenait assez parlé avec cet extrait Ain't Got No, I Got Life.
Ouais, l'album 9-7, c'est l'album de ce concert.
De ce concert,
spécifiquement,
exactement.
Intégralement. La partition d'Omblin Roche chaque matin sur Europe 1. Merci Omblin.
Merci.
Allez, presque 6h29, c'est l'heure de retrouver Laurent Cabrol pour cette météo quasi hivernale au réveil. Hein.
Bah oui, malheureusement. Ce sera encore le cas demain et après-demain. Mais le temps va changer. Tiens, si on parlait du temps à venir, putain, j'ai un petit peu de temps.
Allez, donnez-nous des bonnes nouvelles.
Non, j'en ai pas.
Ah, bon.
Donc jeudi, soleil et froidure. Vendredi, arrivée d'une zone de pluie par l'Atlantique qui va traverser la France samedi et dimanche. Donc vendredi, samedi, dimanche, c'est de la pluie. On va dire qu'on en a besoin quand même. Faut pas dramatiser. On est en pleine sécheresse encore. 15-17 degrés, ce sont des températures maximales de samedi et dimanche. Vous voyez que ça va bien remonter par rapport à aujourd'hui. Et puis, la semaine prochaine, j'ai bien peur que le froid revienne. Bon, allez, on oublie tout ça. En ce moment, il fait entre moins 5 et plus 4 degrés. Moins 5 à 3, moins 3 à Saint-Quentin, moins 2 à Alençon et Besançon, moins 1 à Lille, moins 1 en banlieue parisienne parfois, comme à Villacoublay par exemple, 0 à Caen, 1 degré à Rennes et Paris, 2 à Bordeaux, Lyon, 4 à Brest et 6 à Marseille. Des températures qui dans l'après-midi vont atteindre les 9 à 14 degrés en raison de l'ensoleillement. Oui, ensoleillement mes amis, ensoleillement sur les deux tiers de la France, je vous dirai tout à l'heure où le soleil sera disons un peu plus discret, mais dans l'ensemble il fera beau à Paris, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, à Clermont-Ferrand. Bref, sur les deux tiers du pays, ce sera un temps fort agréable. Et alors que dans les autres régions, eh bien, nous aurons parfois quelques passages nuageux. Avec de la neige, il y en a eu. Il prend la bravo à la faute. Oula. De la neige, il y en a eu. Mais il n'y en aura pas dans la journée. Au piquet, Cabrol !
Allez, à tout à l'heure. Merci, Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez au réveil. Tout de suite, votre journal complet. Bonjour François Geffrier.
Bonjour à toutes et à tous.
6h30.
Nous, dès le début, ça a été très compliqué. Le site du collège ne marchait pas. Tout était buggé, on n'arrivait pas à se connecter. Donc vraiment, ça, c'était trop la pagaille.
Mais oui, c'était trop la pagaille hier pour le retour de l'école à la maison. Bug en série, serveur surchargé, défaillant, voire piraté. Un anniversaire bien tristounet, les 5 ans d'En Marche hier soir. Jean Castex et Édouard Philippe ont dit quelques mots, sans grande passion pour le parti présidentiel. Et puis c'est l'affiche du jour, Bayern Munich, PSG. Et pour une fois, on va voir jouer la paire Neymar-Mbappé. Pas si fréquent que les deux stars de l'attaque parisienne soient au même moment sur un terrain.
Après le journal, le débat sur la fin de vie. Le député Olivier Falorni a décidément bousculé en déposant une proposition de loi visant à légaliser l'assistance médicale à la mort, l'euthanasie. Le texte sera discuté demain à l'Assemblée. 3000 amendements déposés pour y faire obstruction. On en parle avec lui dans 10 minutes. Olivier Falorni, député de Charente-Maritime, est mon invité.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
400 000 adhérents revendiqués, 268 députés, un président de la République en fonction. A priori, il y avait de quoi faire la fête chez les militants de La République En Marche hier soir, car le parti présidentiel fêtait ses 5 ans. Sauf que, entre la pandémie, les tiraillements dans la majorité et le manque de figures pour incarner ce mouvement, la soirée que Jean-Rémy Baudot a suivie pour Europe 1 sous forme d'un meeting virtuel n'était pas des plus joyeuses.
Bonsoir à tous, bienvenue pour ce meeting numérique exceptionnel.
À l'image, la porte-parole d'En Marche, Maud Bréjon, sur scène pour chauffer une salle vide. Pandémie oblige, les marcheurs étaient en Zoom depuis leur salon.
Alors on voit Raphaël, on voit Bertrand du Gers.
5 ans et une place toujours aussi compliquée pour La République En Marche. À écouter l'ancien patron du mouvement, Christophe Castaner, LREM n'est pas la majorité, mais...
LREM doit être un des éléments d'une majorité présidentielle qui tend la main. Et qui rassemble.
Tendre la main, y compris à Édouard Philippe, qui hier a pris plaisir à rappeler qu'il avait toujours gardé ses distances.
J'avais évoqué l'engagement partisan. Et ça pouvait sembler bizarre que j'évoque ce sujet, puisque je n'étais à l'époque pas membre d'En Marche. Et je ne suis toujours pas d'ailleurs.
Heureusement, l'actuel Premier ministre avait lui aussi envoyé une vidéo pour glorifier la logique du rassemblement.
Dépassement. Quel beau mot promu par Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron qui fut le grand absent de la soirée. Le président n'a pas souhaité fêter le mouvement qui au départ portait ses initiales. Certains y verront la confirmation que sa prochaine campagne se prépare sans LREM.
Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1.
Vous l'avez vécu hier avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Cette première journée d'école à la maison a été quelque peu chaotique pour ce qui est des plateformes de cours sur Internet.
Oui, il fallait vraiment s'accrocher. Marius, qui est élève en 6e, nous raconte ses mésaventures.
Dès le début, ça a été très compliqué parce qu'en fait, on devait se connecter au CNED et qu'en fait le site du collège ne marchait pas, tout était buggé, on n'arrivait pas à se connecter. Du coup ma mère m'a dit d'aller au travail avec elle, tellement ça marchait pas. Et en fait au final on a réussi à se connecter sur l'ordinateur d'un de ses amis et du coup j'ai pu me connecter, je fais mon cours en visio et on est 34 élèves dans notre classe, on était 21. Donc il manquait beaucoup d'élèves et en fait on a mis par exemple 15 minutes à comprendre comment marchait le site et le prof il me disait est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez, donc vraiment ça, c'était trop la pagaille. Ça a marché 30 minutes, ça s'éteignait.
Le récit de Marius, bon, pas traumatisé pour autant, vous l'entendez. À l'autre bout de la chaîne, il y a les directeurs et directrices, les principaux des collèges et les proviseurs des lycées. Philippe Vincent est le secrétaire général du SNPDEN.
Apparemment, il y a plusieurs types de causes. Le ministère évoque des attaques informatiques sur le CNED. On évoque des difficultés des environnements numériques de travail qui sont en général gérés plutôt par les collectivités territoriales, régions ou départements. Alors, soit avec des sous-calibrages et en gros une difficulté à supporter le nombre de connexions, soit des conséquences d'un incendie qui a touché il y a quelques semaines un opérateur privé et qui aurait eu des conséquences aussi sur pas mal d'ENT. Alors, je ne sais pas si c'est juste un problème technique ou s'il y a également des engagements financiers derrière. Bah, ça veut dire, est-ce que les collectivités doivent payer plus pour avoir plus d'accès ?
Philippe Vincent du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale, joint par Virginie Riva pour Europe 1.
Face à la pandémie, de nouveaux vaccinodromes ont démarré les injections hier. Le Stade de France, mais aussi des hôpitaux militaires.
Oui, 7 établissements relevant de l'armée pour 50 000 injections par semaine. Alors, Virginie Salmen, la mobilisation s'intensifie pour vacciner, comme dit le gouvernement. Justement, les objectifs qu'il s'est fixés sont-ils atteignables ?
Oui, l'objectif des 10 millions de vaccinés sera atteint un peu avant la mi-avril, probablement dès demain soir. Sur le rythme hebdomadaire, les 2 millions d'injections ont été réalisées la semaine dernière, en majorité des premières doses. Cette semaine, la barre est placée un peu plus haut. Les autorités sanitaires tablent sur 2,1 ou 2,2 millions de vaccinations. Mais pour parvenir à vacciner matin, midi et soir, comme le prévoit Emmanuel Macron, il va falloir accélérer sur les dimanches et les jours fériés où l'on vaccine 5 fois moins qu'un jour normal. Le sérum de Pfizer-BioNTech est toujours largement utilisé avec 91% des doses écoulées contre 60% pour AstraZeneca et 60% pour Moderna avec des stocks bien plus faibles. Désormais, le gouvernement vise les 20 millions de vaccinés à la mi-mai et 30 millions mi-juin.
Et la pandémie qui continue d'endeuiller le Brésil. Un nouveau cap franchi, 4200 morts en 24 heures. Ça n'était jamais arrivé. Le pays recense 87 000 contaminations en une seule journée.
Il est 6h36 sur Europe 1. La réclusion criminelle à perpétuité a été requise hier à l'encontre de Reda Cricket et de deux de ses co-accusés.
Oui, en mars 2016, les policiers avaient découvert 13 armes, dont 5 fusils d'assaut, des munitions, des kilos d'explosifs à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Pour le parquet antiterroriste, cela ne fait aucun doute. Reda Cricket et ses complices présumés préparaient un attentat d'ampleur sur le sol français. Gladys Laffitte.
Nous l'avons échappé belle. Voilà comment l'une des avocates générales a commencé des réquisitions qui ont duré plus de 4 heures. Les représentantes du ministère public ont assumé ne pas avoir les réponses à toutes les questions posées par ce dossier. Pas de cible identifiée, pas de victime précisément visée. Mais pour elle, Reda Cricket est bien le fil conducteur des préparatifs d'un projet bien avancé, d'un attentat sanglant, plus meurtrier que le 13 novembre selon elle. L'arsenal en grande quantité et très divers trouvé à Argenteuil le démontrerait. Le probable séjour en Syrie de Reda Cricket, son réseau de communication fermé avec deux de ses co-accusés. L'un d'eux connaissait aussi un cadre des opérations extérieures de l'État islamique. Les magistrates n'ont pas été convaincues par le peu d'explications fournies pendant 4 semaines d'audience. Pour elles, la seule motivation de ce trio opérationnel était, je cite, le djihad offensif. Et pour cela, la réclusion criminelle à perpétuité a donc été requise contre les 3 hommes. Le verdict sera prononcé en fin de semaine.
Gladys Laffitte du service police-justice d'Europe 1.
En football, il y aura un air de revanche ce soir entre Paris et le Bayern de Munich.
Oui, quart de finale aller de la Ligue des Champions avec cette affiche remake de la finale de l'été dernier, perdue par les Parisiens à Lisbonne. Munich est sans sa vedette, hein, le buteur polonais Robert Lewandowski. Le PSG amoindri sans Marco Verratti et Leandro Paredes, mais qui espère un match XXL de ces deux stars absolues, Neymar et Kylian Mbappé, n'est-ce pas Julien Froment ?
Cette saison, les deux solistes Neymar et Kylian Mbappé ne sont pas encore parvenus à s'accorder sur le terrain et pour cause, ils jouent rarement ensemble. Entre Covid, blessures et suspensions, c'est seulement 19 matchs en commun sur les 42 joués par le PSG. Alors quand ça arrive, on attend de forcément des miracles, mais le défenseur Marquinhos, en bon capitaine, préfère mettre en avant le collectif pour protéger les deux stars du vestiaire.
On voit notre performance à Barcelone. Le collectif, il était vraiment fort, costaud. On a fait un très grand match. Après, on a vu les individualités s'en sortir. Un joueur qui ça va pas marcher, ça va être difficile après pour s'en sortir. Et surtout, le joueur il va avoir tout le poids du monde dans son épaule. Le foot, surtout, c'est un jeu collectif, c'est pas un jeu individuel.
Mais c'est justement pour ça qu'ils ont été recrutés, car Neymar et Kylian Mbappé, entre les salaires et les transferts, ont coûté au Paris Saint-Germain près de 800 millions d'euros. Pour le club, le seul moyen d'obtenir un retour sur investissement sportif, médiatique et financier, c'est donc d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions.
Et ça commence ce soir, match à suivre en direct sur Europe 1 avec vous. Julien Froment avec Lionel Rosso, émission spéciale dès 20h et jusqu'à 23h30.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, il est 6h39. Europe 1. L'heure d'accueillir mon invité ce matin qui m'a rejoint en studio, le député de Charente-Maritime, Olivier Falorni. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre en direct. C'est vous qui êtes à l'origine de cette proposition de loi sur la fin de vie qui sera débattue demain à l'Assemblée nationale. Fin de vie libre et choisie, vous voulez légaliser l'assistance médicale à mourir. Vous allez nous expliquer comment, dans quelles conditions. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 7h20 sur Europe 1. C'est un débat complexe qui traverse la société, peut-être d'autant plus en cette année de crise sanitaire. Faut-il aller plus loin dans nos lois sur la fin de vie ? Mon invité ce matin est donc le député Olivier Falorni, membre du Parti radical de gauche. Olivier Falorni, vous portez cette proposition de loi qui va être examinée demain dans l'hémicycle. Alors, peut-être soyons précis, on parle de fin de vie choisie, d'euthanasie, de suicide assisté. C'est de ça dont il s'agit.
Oui, d'abord merci de préciser les choses à l'heure où beaucoup de fake news circulent sur le sujet. Il s'agit de permettre à toute personne majeure, je dis bien majeure, hein, parce qu'on dit ils veulent tuer les enfants et les dépressifs, donc arrêtons de raconter n'importe quoi. Il s'agit de permettre à une personne majeure atteinte d'une maladie incurable. Donc il ne s'agit pas de tuer les dépressifs, hein. Une dépression, ce n'est pas une maladie incurable. Donc atteinte d'une maladie incurable en phase avancée ou terminale et générant des souffrances inapaisables. Donc des conditions très strictes sont posées et c'est de permettre à une personne dont on sait qu'elle est condamnée, que l'impasse thérapeutique a été prononcée par les médecins, de pouvoir partir comme elle le souhaite, rapidement et sans douleur.
Selon vous, il faut aller jusqu'à, parce que c'est de ça dont il s'agit, il faut aller jusqu'à autoriser un médecin à donner la mort.
Oui, mais vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une situation particulièrement hypocrite en France. On parle de la sédation et profonde et continue aujourd'hui qui est possible. Derrière le beau concept, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'à un moment, quand la situation est désespérée, un médecin peut finalement arrêter l'hydratation et la nutrition. Aujourd'hui, c'est possible. Qu'est-ce que c'est quand vous arrêtez de nourrir et d'hydrater un être humain ? Qu'est-ce que c'est ? Si ce n'est de le condamner et de lui donner la mort. Donc arrêtons cette hypocrisie de faire qu'aujourd'hui on est dans la logique du laisser mourir, qu'on laisse mourir quelqu'un à petit feu, parce que arrêter d'hydrater, de nourrir quelqu'un, eh bien ça peut durer plusieurs heures d'agonie, plusieurs jours, voire une semaine ou 10 jours.
Pourquoi avoir voulu mettre ce sujet-là dans le débat public maintenant, aujourd'hui ?
Vous savez, cette proposition de loi, je l'ai déposée en octobre 2017. C'est difficile au Parlement, quand on est parlementaire, d'inscrire un texte à l'ordre du jour. Ça fait 10 ans que je me bats sur ce sujet, mais aujourd'hui, ce sujet n'est pas, j'allais dire, inopportun. Parce que la question de la vie et de la mort se pose plus que jamais, de l'humanisation de l'agonie. On l'a vu avec des situations abominables, de personnes qui mouraient seules, dont les enterrements se sont déroulés sans les proches. Donc Il y a une vraie question qui se pose dans ce pays. Est-il acceptable encore en France de voir que soit on a des relations, des moyens financiers et on part à l'étranger pour pouvoir bénéficier d'une euthanasie en s'exilant? Et c'est la double peine.
En Suisse ou en Belgique ?
En Suisse ou en Belgique. La Belgique qui a légalisé l'euthanasie il y a 20 ans. Donc on a du recul sur tout ce qui peut se passer. Et puis toutes ces euthanasies clandestines en France. Entre 2 et 4 000 chaque année, dont on ne sait rien.
Quand vous dites euthanasie clandestine, c'est quoi ? Ce sont des médecins qui parfois franchissent la ligne de la loi actuelle ?
Mais parce que les malades les supplient. Les malades les supplient et que par humanité, ils répondent à cet appel. Sauf que le problème de l'euthanasie clandestine, c'est qu'elle n'est pas contrôlée. Et la loi que je propose, justement, elle protège, elle contrôle, elle encadre, elle permet d'humaniser l'agonie dans un cadre légal, en protégeant les malades et en protégeant aussi les médecins, qui par ailleurs ont une clause de conscience.
Qui prend la décision et qui garantit que le respect de la volonté du malade est respecté ?
La décision, c'est la décision du malade. À un moment, quand il est en phase terminale d'une maladie incurable, il peut demander au médecin de pouvoir bénéficier d'une aide active à mourir. Un collège médical se prononce, 3 médecins, et regarde si ça s'inscrit dans le cadre de la loi. Comme je vous ai indiqué, les conditions très précises. Et si ça s'inscrit dans le cadre de la loi, il peut effectivement bénéficier d'une aide active à mourir. C'est la volonté du patient malade en phase avancée au terminal qui n'en peut plus parce que sa vie n'est devenue qu'une survie artificielle et douloureuse.
Et si le malade n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté, parce que c'est aussi un sujet de crispation, ses proches peuvent prendre cette décision à sa place ?
Alors, c'est pour ça que j'encourage les personnes en bonne santé de faire des directives anticipées, c'est-à-dire d'exprimer leur volonté par écrit, de désigner une personne de confiance. Et cette personne de confiance sera le porte-parole si, à un moment, le malade n'est plus en capacité d'exprimer. Il ne sera pas le décisionnaire, il sera le porte-parole, c'est-à-dire qu'il sera en capacité à un moment de dire voilà, cette personne ne voulait pas d'acharnement thérapeutique, voulait une aide active à mourir. C'est mieux s'il l'a écrit sur des directives anticipées. Mais de toute façon, il ne sera que le porte-parole et c'est un collège médical de 3 médecins qui regardera si ça s'inscrit dans la loi, si c'est une maladie incurable en phase avancée au terminal.
Alors c'est un sujet extrêmement sensible et qui touche à l'intime dans notre société. Est-ce qu'il est vraiment possible de le trancher en une journée de débat demain à l'Assemblée nationale ?
Vous savez, la première loi sur ce sujet, elle date de 1978. Voilà, j'avais 6 ans. Le débat, il agite toutes les familles. Aujourd'hui, vous avez des enquêtes d'opinion récurrentes. La dernière, 96% des Français sont favorables à un droit à l'euthanasie. 96% des Français. Donc ce débat, il irrigue la société depuis des années et des années. Le seul endroit où on n'en a pas débattu, c'est l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Mais ce sujet, aujourd'hui, j'allais dire, il est au cœur de l'attention de tous nos concitoyens. Et vous savez, s'il n'y avait pas cette volonté de blocage de 5 députés scandaleusement arc-boutés dans leur volonté d'empêcher un vote, eh bien, croyez-moi, nous aurions eu un débat d'immense qualité.
3000 amendements déposés, dont 2200 par 5 députés Les Républicains. Ça veut dire que tout va se bloquer ? Ça veut dire qu'en une seule journée, tout ne pourra pas être examiné et que vous n'irez pas au bout demain ? C'est ça que vous pensez ?
Ce débat, il aura lieu et je pense que l'Assemblée nationale aura l'occasion d'exprimer d'une façon ou d'une autre sa volonté majoritaire d'avoir l'aide médicalisée au décès dans ce pays.
Vous avez le sentiment qu'il y a une majorité à l'Assemblée aujourd'hui pour voter ce texte ?
J'ai le sentiment qu'il y a une majorité et elle s'exprimera jeudi. Après, effectivement, il y a 5 députés qui vont empêcher probablement les députés de voter sur un texte. C'est scandaleux, sur un texte d'une si grande importance. C'est un vrai problème démocratique. Mais au-delà de ça, je pense que le fait que l'Assemblée se saisisse de ce sujet, cela permettra d'avancer encore plus. Le Parlement ne peut pas être à côté de la réalité.
Europe 1, Sébastien Krebs.
7h10 sur Europe 1. Bonjour Anis Hamida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour est une avancée médicale. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la santé. Il n'y aura bientôt plus besoin, dites-vous, de faire des analyses ou des prises de sang, puisque tout pourra être lu directement sur notre peau.
Oui, je l'ai souvent répété, la tendance en matière de recherche médicale, c'est de trouver des traitements les plus confortables et les moins invasifs possibles. Et bien là, on a un parfait exemple. Imaginez, vous avez un soupçon de diabète, on a besoin de connaître votre taux de sucre dans le sang. Et bien, plutôt que de vous piquer et de faire une analyse, on va prendre une caméra, lui montrer un point très précis de votre épaule ou de votre bras, et en analysant sa couleur, et bien on connaîtra très précisément la concentration de sucre dans votre sang. Et mieux, on aura aussi celle de tout un tas d'autres substances pour suivre, par exemple, la progression d'une maladie ou l'efficacité d'un médicament. C'est instantané, il n'y a pas besoin de prélever d'échantillons de sang. Tout se fait par analyse optique.
Et tout ça en analysant la couleur de la peau, comment c'est possible? C'est une caméra qui arrive à voir sous la peau?
Non, c'est plutôt une sorte de tatouage invisible qui va changer de couleur en fonction de la composition du sang. Ça marche en vous injectant d'abord un gel spécial sous la peau, un gel qui est composé de nanoparticules d'or avec des récepteurs calibrés pour certaines substances chimiques. Et selon leur concentration dans le sang, des points de couleur différentes vont apparaître. Alors, je vous rassure, à l'œil nu, on ne verra rien. Mais avec une caméra spéciale, on pourra identifier la présence de tel ou tel composé dans telle ou telle concentration. Ce sont des chercheurs de l'université de Johannes Gutenberg en Allemagne qui ont mis cette technique au point. Et on prévoit de l'utiliser d'abord pour ceux qui souffrent de maladies chroniques, qui doivent régulièrement faire des analyses. Et je pense qu'ils seront bien contents d'un peu moins se faire piquer.
Même s'il faut quand même leur injecter le fameux gel d'abord.
Une fois.
Une seule fois.
Et ça marche pendant un an, moins un an.
L'innovation du jour, c'est Yannis Ambida. Merci. 6h52, nous ouvrons donc notre revue de presse internationale aux États-Unis ce matin. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse américaine ?
Eh bien, ce nouveau calendrier pour la vaccination, les journaux reprennent l'annonce de Joe Biden. Tous les adultes seront éligibles au vaccin d'ici le 19 avril et non plus le 1er mai. Le président accélère le calendrier qu'il avait fixé le mois dernier, souligne le Wall Street Journal. Le rythme de la vaccination n'a cessé d'augmenter depuis le début de son mandat, passant de 1 million à plus de 3 millions de doses injectées chaque jour en moyenne. L'administration Biden envoie un message aux seniors, retient USA Today. Les personnes âgées doivent se faire vacciner si elles ne l'ont pas encore fait, car les files d'attente vont bientôt s'allonger. Biden exhorte les Américains à recevoir le vaccin et avertit « la pandémie n'est pas terminée », lance le Washington Post. Malgré l'accélération de la vaccination, les variants se répandent, constate le New York Times. Selon les scientifiques, les vaccins finiront par l'emporter, explique le journal. Mais comme chaque infection donne au virus une chance de muter, les vaccinations doivent se faire le plus rapidement possible.
Ouais, merci à vous Alexis Guilleux à New York pour Europe 1. Tous les adultes éligibles à la vaccination dès le 19 avril, ça arrive très vite et ça accélère aux États-Unis. Direction l'Italie à présent. Bonjour Blandine Hugonnet.
Bonjour Sébastien.
Quel sujet fait les gros titres à Rome ?
Alors ici, la presse rapporte l'arrestation d'un mafieux sicilien, un important boss de la Cosa Nostra, piégé pour Pâques, écrit le Post. Le journal explique qu'après un an de cavale au Brésil, ce quarantenaire a eu envie de rentrer quelques jours en Sicile pour célébrer les fêtes pascales, mais Giuseppe Calvaruso n'ira pas jusqu'au repas de famille. La Repubblica raconte que ce chef de clan s'est fait cueillir dès sa descente de l'avion à l'aéroport de Palerme après une escale à Paris. Pendant des mois, il a géré tout à distance depuis le continent américain. D'après la presse locale, sur le territoire de son clan, il fallait passer par lui pour avoir l'autorisation d'ouvrir un nouveau commerce ou régler un litige. Il était même en lien avec des investisseurs étrangers pour mettre la main sur le secteur de l'hôtellerie et du bâtiment, précise le journal de Sicile. Avec lui, quatre de ses bras droits ont été aussi coffrés, souligne le Messaggero, tous accusés d'associations mafieuses, extorsion, coups et blessures, séquestration de personnes et acquisition illégale de biens.
Blandine Hugonnet à Rome. Et nous terminons ce tour du monde en Algérie ce matin. Bonjour Nour Chahine.
Bonjour Sébastien.
De quoi parle-t-on chez vous à Alger ?
Eh bien, dans la presse algérienne, on parle du retour du Hirak, ces grandes manifestations qui mobilisent des centaines de milliers d'Algériens chaque vendredi. Certains manifestants ont même tenté de sortir samedi passé, mais ils ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt, rapporte El Watan. Ce qui n'a pas empêché les étudiants de sortir hier. Le quotidien Liberté décrit une marche qui a mobilisé non seulement les étudiants, mais également des centaines de citoyens pour réclamer un changement radical du système de gouvernance. De son côté, le Soir d'Algérie explique la méfiance du pouvoir vis-à-vis de ces marches. Le pouvoir estime que les islamistes sont en train de manipuler les foules, indique le journal. notamment en diffusant de fausses informations sur de prétendus actes malveillants de la police à l'égard de certains manifestants arrêtés durant le Hirak. L'objectif de ces polémiques, selon le Soir d'Algérie, est de pousser le Hirak à se radicaliser.
Nour Chahine, en Algérie, pour Europe 1, 111e un mardi de mobilisation pour les étudiants dans les rues d'Alger. Il est 7h05.
Europe 1.
Et de bonnes nouvelles à suivre et qui vont nous redonner le moral dans cette période de restrictions. Les premiers effets des mesures commencent à se faire sentir sur les chiffres des contaminations. C'est à la une du 7-9 de Mathieu Bellière à suivre. Europe 1. 6h58 sur Europe 1. Je vous souhaite une très belle journée. Tout de suite, c'est le 7-9 de Mathieu Bellière. Je vous ai mis le chauffage, Mathieu, dans le
studio. Oui, c'est vrai, il fait bon. Il fait meilleur que dehors. Ça, ouais. je vous le garantis. Laurent Cabrol, dans une minute. Hein. Vous restez avec nous. Merci, Sébastien.
À demain.
Et bon réveil à toutes et à tous. Mercredi 7 avril 2021. Le monde a changé. On va vous le raconter. Ça change. Autour de nous, notamment, écoutez le Premier ministre britannique Boris Johnson en VO. C'est plus savoureux.
Monday the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously. But irreversibly raising a pint of beer to my lips.
Lundi 12 avril, j'irai au pub moi-même. Je porterai prudemment, mais inéluctablement, une pinte de bière à mes lèvres. C'est solennel, so British. Et c'est surtout ces signes de ce monde qui rouvre ses portes, ses fenêtres. Le monde de la culture qui ouvre dans le journal à suivre. New York, Barcelone, Berlin, Perth en Australie. En France, par contre, la bière, ce sera à la maison. Mais ce sera surtout à l'écoute d'Europe 1 pour une soirée spéciale dès 20h. Alors ce n'est pas rien, un quart de finale de Ligue des Champions Bayern Munich PSG. Y a-t-il un parfum, un sentiment de revanche chez les Parisiens? 8 mois après la finale perdue, je poserai la question à Ander Herrera du PSG à 7h40. Il va falloir que j'arrive à le dire. Ander Herrera, pardonnez-moi, à 7h40, le tête-à-tête Europe Matin. Et avant ça, l'édito sport de Virginie Fulpin. Ce soir, Neymar doit prouver qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sinon, autant qu'il s'en aille. Voilà quelques éléments du programme. 6h59, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo. Bonjour Laurent.
Bonjour Mathieu.
On a gardé la musique de la Ligue des Champions.
Oui, vous pouvez.
C'est notre champion ce matin.
Vous pouvez pour les champions, ce sont les températures surtout. Allez, les températures vraiment sur le podium. Hein. Moins 5 sous abri à 3. Moins 3, oui, tiens, sans jeu de mots, moins 3 à Langres, Saint-Quentin, Rouen et Melun. Moins 2 à Besançon, moins 1 à Lille et en banlieue parisienne. 0 à Nancy, 1 à Paris, 2 à Lyon, 3 à Biarritz, 4 à Brest, 6 à Marseille, 8 à Bastia, températures actuelles dans la journée entre 8 et 14 degrés. Grâce à l'ensoleillement, grâce à la position du soleil dans le ciel, justement, eh bien, les températures vont bien remonter. Mais ce matin, il y a du gel, il y a encore des plantes qui vont souffrir. Et vous, chers amis, dans votre salle de bain, peut-être avez-vous froid aussi. Hein, ce fut mon cas. La neige était là.
Témoignage.
La neige était là tout à l'heure vers Mulhouse, Grenoble, Chambéry, Annecy, Genève, autour de ces villes. Il a neigé un petit peu. Mais le temps va quand même s'améliorer assez sensiblement, de sorte qu'aujourd'hui, pour nous résumer, vous aurez un temps globalement ensoleillé sur les 4/5 de la France. Un peu de patience pour beaucoup d'entre vous, l'après-midi sera belle.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Bellière.
Vous êtes sur Europe 1, très bon réveil à toutes et à tous, on écoute le monde changer.